Il me semble qu'il convient de commencer l'année avec le sujet le plus important qui soit, savoir Dieu, la personne de Dieu, comme nous allons voir à travers ce texte ce matin en Exode. Notre plus grand besoin, c'est sa présence, et la plus grande bénédiction qui soit, c'est de le connaître et de marcher avec lui. Alors, je commence avec quelques citations classiques des œuvres importantes dans notre héritage chrétien et protestant. Je pense des citations que vous avez peut-être déjà entendu, ou vous devriez connaître. En tout cas, il y a cette célèbre citation qui commence l'œuvre de Calvin, l'institution. Il dit « Presque toute la sagesse que nous possédons, qui est en définitive réelle et véritable, présente un double aspect, la connaissance de Dieu et de nous-mêmes. » Donc, toute la sagesse que nous possédons commence avec une connaissance de Dieu et puis de nous-mêmes. Ça, c'était Calvin, un Français qui était devenu un peu Suisse. Un peu plus tard dans l'histoire, il y a un livre assez connu, « La connaissance du Saint ». Ça, c'est un Américain qui est devenu un peu Canadien. Aidan Tozer, il dit « Ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. » Et encore un peu plus récemment, James Packer, c'était un Anglais qui s'est fait Canadien, dans son ouvrage connu « Connaître Dieu », une fois que vous prenez conscience que l'activité principale pour laquelle vous êtes ici est de connaître Dieu, la plupart des problèmes de la vie se mettent en place d'eux-mêmes. Ça, c'est des bons vœux pour 2023. Donc, si c'est le cas, nous voulons effectivement connaître Dieu. Et le passage, certainement le plus important, bon, je me connais, j'ai l'impression de dire ça souvent, mais le passage le plus important de l'Ancien Testament concernant la connaissance de Dieu, en tout cas, me semble celui-ci. Ce texte nous rapproche le plus dans ce qu'on pourrait appeler l'autoportrait de Dieu. Dieu se fait une autoportrait, en tout cas une autoproclamation. Des fois, on n'apprécie pas quand les gens s'autoproclament chef ou roi ou Dieu. Mais quand Dieu s'autoproclame Dieu, ça nous intéresse et on veut faire attention. Et ici, vous avez vu, Dieu, suite à ce dialogue avec Moïse, il arrive un moment où il fait connaître son nom, il fait connaître sa gloire, il fait connaître son identité, il fait connaître son caractère, le cœur de son caractère. Voilà ce qu'il dévoile à Moïse. Et tout ça grâce au dilemme du veau d'or, on a étudié ça dans le chapitre 32, grâce à ce dilemme du veau d'or et cet échange entre Dieu et Moïse, nous arrivons à ces versets, c'est vers la fin de ma lecture, c'était un peu long, mais la fin de ma lecture, en chapitre 34, versets 6 et 7 notamment, qui sont dans toute la Bible certainement la meilleure expression du caractère de Dieu. Ces versets sont repris à maintes reprises dans la Bible quand on veut louer Dieu dans les psaumes, quand on rappelle le caractère de Dieu, la personne de Dieu, on s'appuie souvent sur ces mêmes mots, cette même description de Dieu. Et dans cette proclamation, dans cet autoportrait de Dieu, nous allons découvrir l'unique gloire du Dieu de la Bible. Même le Dieu chrétien, il va falloir l'aspect chrétien, l'aspect Christ pour découvrir toute cette unique gloire de Dieu. Alors pour arriver à ça et pour connaître Dieu pleinement, ce matin je propose de progresser avec la texte. Donc pour connaître Dieu, on va d'abord voir une solution qui était insatisfaisante. Ensuite un intercesseur qui insiste et enfin un Dieu qui se dévoile. Donc tout d'abord, ça commence notre texte en chapitre 33 avec une solution qui était insatisfaisante. Je rappelle, dans le chapitre précédent, Moïse avait quand même réussi à détruire le veau d'or, cette idole terrible, et Moïse a réussi à stopper les débordements débauchés. Il a réussi à limiter les dégâts. Il y avait 3000 morts par là, mais pas tout le peuple. Mais ce n'est pas encore le beau fixe. Dieu dit, vous avez vu dans les premiers versets, Dieu dit, partez d'ici, le mont Sinaï, partez d'ici et allez vers le pays promis. Mais moi, j'y vais pas. Je vous enverrai un ange, vous enverrai un assistant, mais moi, j'y vais pas avec vous. C'est trop dangereux pour vous. vous êtes un peuple d'un coup raide, vous allez certainement recommencer vos bêtises, et là, je vous consumerai. Donc c'est trop dangereux pour vous, j'y vais pas avec vous. Alors, on a un petit indice, parce que le texte lui-même, en verset 4, qualifie cette suggestion de Dieu, cette solution de Dieu, comme des sinistres paroles. Vous avez peut-être sinistres paroles ou d'autres traductions, des paroles désastreuses, des paroles fâcheuses. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles. Donc, déjà, le texte reconnaît que c'est pas bon, ça. À son honneur, le peuple est quand même déçu de cette solution. Ils auraient pu dire, ah oui, enfin, ça nous arrange bien, on pourrait faire tous les veaux d'or qu'on veut, enfin, libre, Dieu reste un peu à l'écart, lointain, et quand on a besoin de lui, on l'appelle, mais sinon, il n'est pas vraiment avec nous, il ne marche pas avec nous, et comme ça, on est un peu plus libre. C'est le choix que font beaucoup de nos contemporains. Donc, à son honneur, le peuple est quand même affecté, déçu de cette solution. Après la suite du texte, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il fait là, parce que Dieu dit, well, je vais voir ce que je fais avec vous. Et puis les versets 7 à 11 parlent de cette tente de la rencontre. Mais en fait, dans ces versets, le texte fait en quelque sorte un renvoi au fonctionnement qui était en place jusqu'à là, notamment à cette époque où le tabernacle n'est pas encore construit. Donc, avant le veau d'or, le peuple avait reçu la loi et notamment les instructions pour le tabernacle, mais le tabernacle n'est pas encore construit. Et avant le tabernacle, où le projet était vraiment Dieu qui habite parmi son peuple, il y avait cette tente de la rencontre qui, et on donne un peu les détails ici, à l'imparfait, hein, voilà ce qu'on faisait. Donc Moïse dressait la tente à l'écart du camp. Et puis, il entrait, il parlait avec Dieu, les gens voyaient la colonne de nuée, et puis Moïse ressortait et revenait dans le camp. Et donc, cette petite scène, ce petit rappel, déjà rappelle le rôle particulier qu'avait Moïse en tant qu'intercesseur, en tant que porte-parole. Mais aussi, ça rappelle que la présence de Dieu, jusque-là, est quand même à l'écart du peuple. Verset 7, il prenait la tente et il adressa hors du camp, à quelques distances. Donc, un peu Dieu vient, mais il reste à l'écart, à quelques distances du peuple. On n'est pas encore au stade du tabernacle que nous allons étudier la semaine prochaine, où selon les instructions, le tabernacle, c'est une autre tente, mais cette fois-ci, vraiment au milieu, au cœur du peuple. Ça fait un peu comme autrefois. Des fois, il fallait aller chercher l'eau loin, à la rivière, au puits, et puis revenir la ramener à la maison. C'est bien qu'il y avait de l'eau. Mais une fois qu'on a découvert l'eau courante dans les maisons, c'est même beaucoup mieux d'avoir l'eau accessible, même si les dégâts des eaux, c'est une réelle possibilité, s'il n'y a pas tout ce que la robinetterie qui va bien. De la même manière, hier, Dieu, il est là, il est à l'écart, c'est déjà bien, mais ce serait beaucoup, beaucoup mieux. C'est le but, qu'il soit au milieu de nous, qu'il marche avec nous, qu'il demeure, qu'il habite avec nous. Ça, c'est... Donc, ces versets appuient déjà un peu qu'on est toujours à un stade d'une solution insatisfaisante. Mais je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'une telle solution vous conviendrait? Si Dieu nous disait, pour 2023, vous aurez la santé, vous aurez la réussite professionnelle, vous aurez la protection de vos ennemis, vous aurez la direction dans la vie, vous aurez même des révélations d'anges, si vous voulez. Mais tout ça sans moi, sans une communion réelle avec moi, sans des moments d'intimité avec moi. Je vous donne la santé, je vous donne la réussite professionnelle, je vous donne la direction, je vous donne des expériences, mais sans moi, sans une communion avec moi, sans une relation profonde avec moi. Vous acceptez? Notez que Moïse préfère le désert avec Dieu. Ne nous fait pas partir d'ici. Moïse préfère le désert avec Dieu que le pays promis terrestre, avec le lait et le miel, tout ça, sans Dieu. J'espère que cette solution vous est aussi insatisfaisante. Donc maintenant, on va mieux voir cet intercesseur qui insiste, parce que Moïse, il trouve effectivement que cette solution est insatisfaisante. Donc il va insister pour trouver une meilleure solution. Et nous allons maintenant suivre de près ce dialogue entre Dieu et Moïse. Ça n'est plus important, dialogue ou prière dans la Bible. Donc ça commence en verset 12, chapitre 33, si vous avez les textes devant vos yeux. Donc c'est un dialogue entre Moïse et Dieu. Encore, il faut rappeler, Dieu n'a pas forcément besoin de dialoguer avec, mais Dieu se met à un autre niveau pour que nous puissions comprendre sa personne et sa gloire. Alors Moïse dit, verset 12, « Tu me dis, fais monter ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Donc, c'est sa manière de dire, en fait, je veux pas un ange. Je veux pas un de tes assistants, je veux toi. Et puis il poursuit, tu as dit, je te connais par ton nom, donc, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Donc tu m'as dit que tu as trouvé grâce à mes yeux. Alors maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Vous suivez la réflexion là? C'est... faut suivre, mais si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Et c'est ça que je veux. Donc, on va essayer de comprendre, mais cette prière déjà, fais-moi connaître tes voies, ça revient à prier, fais-moi te connaître, parce qu'il dit, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Donc, fais-moi connaître tes voies, ça revient à prier, accorde-nous la grâce de ta présence, parce que les voies de Dieu, finalement, ce qui est intéressant dans les voies de Dieu, c'est que c'est là où il y a Dieu. Dieu se trouve dans les voies de Dieu. Donc, si on marche dans les voies de Dieu, c'est qu'on marche avec Dieu. Et c'est ça que Moïse veut. Et puis, notez aussi que Moïse plaide ce cycle infini de la grâce qui est si beau. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître, et alors je trouverai encore plus de grâce à tes yeux. Et plus on bénéficie de cette grâce, la grâce de Dieu, c'est de se faire connaître à nous. Et puis, c'est un cycle infini, hein, un peu comme un moulin à eau. L'eau remplit le seau, ça fait tourner le moulin plus rapidement, ça remplit plus d'eau, et puis ça part à l'infini. En quelque sorte, c'est ça la vie chrétienne. On bénéficie de la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu, c'est de nous faire découvrir davantage sa personne, sa grâce, et il en déverse encore dans notre vie, et ainsi de suite, dans un cycle infini. C'est ce que veut Moïse, et c'est ça vivre avec Dieu, c'est sa présence. Donc voilà ce qu'il prie. Et donc Dieu répond, verset 14. Ok. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. En fait, tout au long de ce texte, le singulier et le pluriel devient important. Toi, nous, vous. Donc, Dieu dit, je marcherai avec toi. C'est au singulier. Et je te donnerai du repos. C'est comme si Dieu demande à Moïse de préciser sa prière. Est-ce que tu pries juste pour toi ou tu as en tête plus? Et Moïse va préciser, maintenant dans sa réponse, verset 15, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Ce qui va nous distinguer parmi tous les peuples de la terre, c'est que tu marches avec nous. » Encore verset 15, « Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Donc là, Moïse précise, ce que je demande, c'est pour moi et le peuple. Moi et ton peuple. Donc, en fait, tout au long de cette prière, quand Moïse dit « moi », quand il parle de « moi », il a en tête aussi tout le peuple qu'il représente en tant qu'intercesseur. Verset 17, on avance dans ce dialogue, Dieu dit « ok, je ferai ce que tu me demandes, car j'ai trouvé grâce, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Et là, Moïse renchérit, verset 18, il dit « Fais-moi voir ta gloire. » Alors, j'espère que vous comprenez cette prière maintenant. « Fais-moi voir ta gloire. » Cette insistance de Moïse qui va jusqu'à cette prière « Fais-moi voir ta gloire », ce n'est pas juste une demande de bonus perso une fois que dans le verset 17, Dieu a dit « Ok ». Comme quoi, Moïse dit « Voilà, tant que j'étais là, tant qu'on est dans les coulisses, et puisque je suis une personne VIP, est-ce que, montre-moi quelque chose d'impressionnant à moi tout seul. » Non. « Fais-moi voir ta gloire », c'est le résumé de toute son intercession, de toute sa prière, c'est la requête suprême. Tu dis que tu vas répondre à ma prière de vivre avec nous, de marcher avec nous, mais maintenant, montre-moi cette gloire unique qui te permet de marcher avec nous. Convainc-moi de ton caractère glorieux qui te permet de vivre avec nous et que je sois sûr que tu vas exaucer cette prière. Voilà l'insistance de Moïse. Montre-moi cette gloire qui te permet de vivre et de marcher avec nous. L'apôtre Jean, dans son évangile, s'inspire grandement de ce moment. Déjà pour introduire son évangile, mais aussi notamment dans la célèbre prière de Jésus, la veille de sa mort, en Jean chapitre 17, on retrouve vraiment les mêmes requêtes où Jésus insiste, en quelque sorte, dans une des plus longues prières de la Bible. Il prie les mêmes choses, hein, montre ta gloire, fais-toi connaître à tes disciples, à mes disciples, fais que nous soyons toujours ensemble. Et que nous puissions tous vivre pour toujours. C'est la prière de Jésus en Jean 17 reprend quasiment exactement le fardeau de Moïse. Et mes amis, si vous pouvez concevoir Jésus en train d'insister en votre faveur, encore plus que Moïse, tous les jours de 2022, tous les jours de 2023, si vous pouvez concevoir Jésus est en train d'insister, il prie non seulement pour lui, il intercède, mais pour tout son peuple comme Moïse. Eh bien, ce sera un sommet de l'expérience spirituelle que nous pouvons vivre ici-bas. Jésus qui prie, qui insiste les mêmes choses pour que nous puissions vraiment connaître Dieu et vivre avec lui et marcher avec lui toujours. Montre-moi ta gloire, montre-moi comment tu peux faire ça. Et maintenant, nous arrivons à l'exaucement suprême des prières de Moïse, le Dieu qui se dévoile. Donc, Moïse prie, verset 18, « Fais-moi voir ta gloire. » Et 19, l'Éternel répondit, « Ok, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Donc déjà, dans cette première phrase, il indique qu'il va exaucer cette prière, ce qui est déjà une gloire du Dieu de la Bible, c'est qu'il veut se révéler, il veut se dévoiler. Le Dieu qui se dévoile, j'ai emprunté cette phrase du livre de Don Carson, c'est les méditations quotidiennes, si vous cherchez un livre de méditation quotidienne pour 2023, le Dieu qui se dévoile. Mais et avec cette phrase, il résume en quelque sorte notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui veut se dévoiler, qui veut montrer qui il est. Ça, c'est ce qui déjà le distingue bien notre Dieu. Donc, il indique dès verset 19 qu'il veut répondre. Et en plus, nous avons déjà un petit indice que la gloire unique de Dieu, c'est sa bonté, c'est sa grâce. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire » et la réponse de Dieu « Je ferai ce que tu demandes, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Montre-moi ta gloire, ok, je te ferai passer devant toi toute ma bonté. » Donc déjà un petit indice de là où nous allons, c'est que la gloire de Dieu se trouve dans sa bonté, dans sa grâce. Mais avant de montrer à Moïse vraiment l'autoportrait. Des fois, il y a ces moments dans les musées, un vernissage où ils vont dévoiler un nouveau tableau, un tableau qui a été perdu jusque-là. Donc, il y a ce grand moment, on enlève un peu le voile, et puis on voit le portrait ou le tableau du peintre. Donc, c'est un peu ce qui va arriver ici. Mais avant ce moment où Dieu se dévoile vraiment, Dieu donne quelques précisions, quelques stipulations pour aussi nous aider à mieux comprendre sa gloire, sa personne. Donc, il dit à Moïse, « Ok, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Toujours verset 19. « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Donc, la première précision, c'est « Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » C'est-à-dire cette grâce, cette gloire que je vais dévoiler. Je ne le dois à personne. Je reste libre. La souveraineté de Dieu, y compris dans le choix de dispenser sa grâce, à qui dispenser sa grâce, fait partie de son caractère, de son autoportrait, qui rappelle à Moïse. Et puis, une autre stipulation, verset 20, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Tu vas devoir être protégé dans un creux de rocher, je te couvrirai, et là, tu verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, c'est vrai qu'il y a une gloire de Dieu que l'homme ne peut pas voir et vivre. Et donc, il précise ces deux choses à Moïse avant de se dévoiler. Avant de lui montrer cet autoportrait, cette autoproclamation. Et là, il le fait. Bon, Moïse reprépare les tablettes de l'Alliance. Ça rappelle qu'on est dans un cadre où Dieu va remettre en place, renouer cette Alliance qui avait été menacée, presque bafouée. Et donc là, mais le moment vient dans les versets 5 à 7 où Dieu dévoile son autoportrait. Dieu passe devant lui. Ce qui est intéressant, c'est que quand Dieu passe devant lui, quand Dieu se dévoile à Moïse, Moïse ne reçoit pas une vision, il ne reçoit pas un rêve, il ne reçoit pas une émotion, il ne reçoit pas une explosion de tonnerre. Enfin, ce qu'il reçoit, c'est une parole, il reçoit une proclamation que voici, on l'a déjà lu, mais c'est verset 6. L'Éternel passa devant lui et s'écriera. Donc, fais-moi voir ta gloire. Voici la réponse. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Voilà l'autoportrait de Dieu. C'est Dieu lui-même qui dit comment il est. Quel trait ressort-il? Bon, l'Éternel est répété deux fois, c'est important. L'Éternel. Le rappel de cette existence éternelle, infinie, puissante, tout ça. Mais ensuite, les mots qui ressortent vraiment, vous les avez vus, Dieu miséricordieux, compatissant. Patient, lent à la colère, bonté, riche en bonté, fidèle, riche en fidélité, amour qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, pardon, qui pardonne l'iniquité. Tout ça, c'est un peu la même famille. Miséricorde, compassion, patience, bonté, amour, pardon, fidélité. Voici les traits distinctifs, uniques du Dieu de la Bible. Et qui punit. Et qui punit l'iniquité. Et puis, ça parle jusqu'aux troisième, quatrième génération. Peut-être cette phrase vous a intrigué. Je pense que même là, c'est Dieu fait preuve de grâce. C'est-à-dire Dieu limite le mal. C'est par rapport, il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, mais il punit le péché sur 3 et 4e génération. Il y a une réalité que quand on vit dans le mal, quand on vit loin de Dieu, quand on vit dans le péché, ça peut avoir des conséquences sur plusieurs générations. Mais heureusement, Dieu dans sa grâce fait que chaque génération depuis Adam n'est pas pire que la précédente, même ceux qui vivent sans Dieu. Sinon, on sera tous complètement déjà en train de vivre l'enfer sur terre. Donc, on peut, on, une génération peut être mauvaise, et heureusement, Dieu limite les dégâts, et chaque génération par la suite n'est pas forcément aussi pire que la génération précédente. Donc Dieu, il freine le mal encore ici. Mais cet autoportrait nous intrigue quand même. Un Dieu qui est rempli de grâce et d'amour, et un Dieu qui punit l'iniquité. Vous connaissez ces énigmes courtes que on se dit parfois. Un petit exemple. On me jette quand on a besoin de moi, et on me récupère lorsque je suis inutile. Qui suis-je? On me jette quand on a besoin de moi, et on me récupère lorsque je suis inutile. Qui suis-je? Si vous connaissez ce genre de truc. Il s'agit de l'ancre de navire. On me jette quand on a besoin de moi, et on me récupère lorsque je suis inutile. Qui suis-je? L'ancre d'un navire. Donc j'ai un autre énigme à vous proposer. Je pardonne les coupables pour habiter avec eux pour toujours, et je punis les coupables en les bannissant pour toujours de ma présence. Qui suis-je? Je pardonne les coupables pour habiter pour toujours avec eux, et je punis les coupables les mêmes en les bannissant pour toujours de ma présence. Qui suis-je? Essayez de trouver la réponse. Est-ce Allah? Ça ne marche pas. Est-ce la Vierge Marie? Ça ne marche pas. Est-ce Twitter? Ça ne marche pas. Est-ce que c'est la vignette critère? Ça ne marche pas. Ça, c'est l'énigme de cet autoportrait. Et la réponse de cette énigme va se trouver un peu dans l'alliance que Dieu refait là, et le tabernacle qui sera construit avec tous les rites et les sacrifices. Mais en réalité, cette énigme va rester en suspens un peu tout l'Ancien Testament, jusqu'au jour où Jésus, il monte et redescend une autre montagne. Et comme vous connaissez l'histoire de la croix, il se fait punir à notre place. De sorte que, coupables, nous sommes à la fois pardonnés, à la fois punis. Il devient péché à notre place, il prend nos péchés. Donc Dieu punit les coupables que nous sommes et Dieu pardonne les coupables que nous sommes en même temps. De sorte que Dieu peut habiter avec nous. Et en Jésus, c'est surtout là que nous avons l'autoportrait accessible, suprême de Dieu. Fais-moi voir ta gloire, trouve sa réponse vraiment en Jésus-Christ. Et je termine avec ce qui, je trouve, une des parties les plus belle de ce texte. Après que Dieu présente son autoportrait avec cette énigme que nous venons de résoudre, à quel point Moïse connaît la réponse, il faut pleinement Jésus-Christ qui le résout. Mais ensuite, Moïse s'incline à terre, verset 8, et il dit: « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » C'est-à-dire, fort de cette révélation, fort de cet autoportrait de Dieu, Moïse a une nouvelle arme dans son arsenal de prière. Il a un nouvel appui, et il dit en verset 9, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. » La réflexion de Dieu au début, c'est: je ne peux pas marcher au milieu de vous parce que vous êtes un peuple au cou raide. Et Moïse, maintenant, à cause de la gloire unique de Dieu, parce qu'il a vu cet autoportrait de Dieu, parce qu'il a vu les qualités distinctives du Dieu de la Bible, de l'Éternel, qui peut pardonner et punir et vivre et demeurer avec son peuple, Moïse peut maintenant prier: eh bien, marche avec nous, car c'est un peuple au cou raide. Pas malgré, mais parce que. Pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. C'est-à-dire, puisque tu es ce Dieu, un tel Dieu, puisque tu as cette gloire unique qui peut pardonner les péchés sans enfreindre la justice, eh bien, je demande que tu marches avec nous. Et tu peux montrer encore ta gloire parce que c'est un peuple au courroux. Puisque la gloire unique de Dieu, c'est de pardonner les coupables et de marcher au milieu de Dieu sans trahir sa justice, Moïse dit, alors fais-le. Fais-le. Et ouais, on va trouver grâce à tes yeux, on va pouvoir mieux te connaître, tu vas pouvoir nous gracier davantage, tu vas pouvoir te faire connaître au monde comme un Dieu de grâce et de bonté. Fais-le, marche avec nous. Et ça, c'est peut-être la vérité la plus précieuse qui soit pour envisager 2023. Dieu, marche avec nous parce que nous sommes un peuple pécheur. Est-ce que vous pouvez prier comme ça? Dieu, bénis le Bethléem parce qu'elle est imparfaite. Parce que c'est l'occasion de montrer ta gloire et ton salut et ta grâce en Jésus. Et parce que c'est ainsi que nous pouvons te connaître encore mieux et te faire connaître. Que nous puissions contempler encore la gloire de Dieu sur la face de Christ, celui qui nous aide à résoudre l'énigme et voir les traits de l'autoportrait encore plus dévoilés. Son amour, son pardon et sa justice. Que nous puissions apprendre à prier comme Moïse pour la gloire de Dieu et pour que nous soyons un peuple qui se distingue de tous les peuples de la terre. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette rencontre entre toi et Moïse. Nous te remercions effectivement de l'aperçu que cela nous donne de ta gloire. Nous avons vu ce matin que ta gloire, ton caractère unique, c'est d'être ce Dieu qui pardonne tout en punissant. Ce Dieu qui peut habiter avec un peuple pécheur en permanence. Et nous te réclamons encore ce matin. Nous voulons que tu marches avec nous, nous voulons vivre avec toi. Nous savons que nous sommes indignes, mais... tu peux te glorifier en nous pardonnant, en marchant avec nous, en nous bénissant, en te faisant connaître à nous encore plus cette année. C'est ma prière pour notre assemblée, pour nous tous, que nous puissions trouver grâce à tes yeux et connaître tes voix et connaître ta personne davantage et encore plus jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous te remercions pour notre assemblée, nous te remercions de cette nouvelle alliance que tu as faite avec nous en Jésus-Christ, qui nous rappelle que jamais tu vas nous abandonner, jamais nous quitter, et que chaque jour, Jésus intercède parfaitement pour nous. Il insiste pour que le meilleur de ta grâce et de ton amour soit déversé dans notre vie. Nous te louons et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.